Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Relations et Urbania. Au programme, Jeunes racisés, de la stigmatisation à la criminalisation et la vie d'adulte. Bonne écoute.
Jeunes racisés, de la stigmatisation à la criminalisation. Discours médiatique et politique dominant se conjugue au savoir expert et à des pratiques policières pour stigmatiser une jeunesse racisée que l'on associe sans nuance aux gangs de rue. Une logique qui nourrit un cycle d'exclusion, de criminalisation et de répression plutôt que d'ouvrir des portes à ces jeunes. Un texte de Carl Beaulieu, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022, dans la revue Relations. L'auteur est candidat à la maîtrise en criminologie à l'Université de Montréal. Nous assistons actuellement à la remontée d'une panique morale à l'égard de la jeunesse racisée à Montréal et dans d'autres grandes villes, qui s'articule cette fois autour de la violence par armes à feu. Une panique morale se définit comme une crainte, nourrie par certains discours à l'égard d'un sous-groupe social, démesuré par rapport aux risques qu'il représente réellement. Depuis quelques mois, les jeunes hommes noirs et les personnes racisées de certains quartiers sont en effet démonisés dans les discours de certains policiers et politiciens qui se sont imposés dans l'espace public, notamment en raison du traitement médiatique des récentes fusillades dans la région de Montréal. La presse a en effet contribué à en faire une crise des armes à feu, ce qui semble exagéré compte tenu des données rendues publiques par le service de police de la ville de Montréal, SPVM. Ces différents acteurs et actrices ont parlé de la dite crise en des termes l'apparentant à une épidémie ou à un cataclysme. Ce faisant, ils et elles ont contribué à cristalliser un sentiment de perte de valeur commune et de dépossession territoriale aux dépens de groupes de jeunes personnes racisées, dépeintes comme violentes et dangereuses. En parallèle, plutôt que d'être prise en compte dans sa complexité, l'insécurité urbaine que vit la population des quartiers pauvres inspire souvent un discours démagogique que l'on peut qualifier de populisme pénal. Les discours présentant Montréal comme une ville non sécuritaire se sont multipliés et nos politiciennes et politiciens ont sauté sur l'occasion d'asseoir leur légitimité en faisant l'apologie de mesures axées sur le contrôle et la surveillance, normalisant les discours « tough on crime ». Dans ce contexte, les stratégies misant d'abord sur la prévention du crime ont été mises en suspens, alors que la punition est apparue comme la principale option pour faire face au problème de la violence armée. Les approches qui privilégient la transformation sociale, l'expertise locale, la prévention ainsi que le dialogue avec les communautés concernées ont été écartées. Ces vieux réflexes en matière de lutte contre la criminalité, qu'on ne peut qualifier que d'idéologiques, pavent inévitablement la voie à une reproduction du cycle répressif dans les quartiers pauvres et racisés de Montréal, en plus d'occulter les enjeux structurels qui sous-tendent cette violence. Il importe de situer cette panique morale dans son contexte socio-historique, soit la montée du paradigme de la ville néolibérale et sécuritaire. Au tournant des années 1980, nos sociétés sont confrontées aux délocalisations, à une désindustrialisation ainsi qu'à l'effritement de l'État-providence, laissant entre autres en marge les personnes racisées et issues de l'immigration. Ces années ont aussi été marquées par de nouvelles pratiques en matière de gouvernance urbaine visant une privatisation des espaces publics ainsi qu'une explosion des techniques de contrôle et de surveillance de la population. Ainsi, Les espaces de la ville sont dorénavant compris avant tout comme des lieux de consommation et d'investissement. Leur utilisation se restreint davantage à ces fins et des moyens sont mis en place pour invisibiliser les corps qui sont jugés indésirables, déviants et non profitables, notamment ceux des personnes pauvres et des personnes racisées. Dès lors, les gangs de jeunes hommes racisés sont rapidement érigés en problème social à combattre de manière répressive. Raciser et dépolitiser la délinquance juvénile. C'est plutôt dans ce contexte qu'émerge le concept de gang de rue. Au Québec, il est d'abord utilisé par les médias à partir des années 1980. Il sert surtout à désigner les groupes de jeunes noirs à travers un lexique importé des États-Unis. Ainsi, il agit rapidement comme marqueur de différenciation d'une criminalité qui permet la diabolisation des corps noirs dans l'espace public. En effet, les crimes commis par des gangs de jeunes noirs seraient plus lucratifs, plus violents et relèveraient d'un caractère plus structuré que ceux commis par les groupes de jeunes blancs. Ainsi, ces échanges et emprunts conceptuels continuels entre médias, policiers et politiciens ont consolidé la problématisation d'une présence des gangs de rue dans nos villes dites sécuritaires. Il faudra peu de temps pour que le concept s'impose aussi comme objet de savoir expert. L'ensemble des études réalisées sur le phénomène traduit néanmoins un manque de consensus quant à l'objet qu'il désigne, voire un flou conceptuel. L'utilisation objectivante du concept a pour effet de déplacer l'objet de l'intervention. Plutôt que de cibler les comportements délinquants, on cible en effet des attributs physiques et sociaux ainsi que des quartiers précis dans lesquels on relègue les communautés marginalisées. En d'autres mots, le concept de gang de rue suscite une association de clichés entourant le style vestimentaire, les choix musicaux et les codes sociaux qui marquent l'individu. Cette situation crée nécessairement une image stéréotypée du membre de gang de rue, de sorte que plusieurs jeunes personnes racisées se voient rapidement accoler cette étiquette pour ce qu'elles sont et où elles sont, plutôt que pour ce qu'elles font. De plus, le concept opère une forme de dépolitisation des conditions de vie ainsi que des processus de marginalisation auxquels ces jeunes font face. Adapté principalement à une lecture policière, le concept de gang de rue évacue les causes sociales et politiques qui expliquent en partie la délinquance juvénile, telles que le racisme systémique et la pauvreté. Le terme gang de rue lui-même évoque une prise de l'espace de la rue plutôt que les barrières physiques, matérielles et sociales auxquelles se butent les jeunes dans nos sociétés actuelles. Vous écoutez « Jeunes racisés, de la stigmatisation à la criminalisation », un texte de Carl Beaulieu, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022, dans la revue Relations. Au Québec, la criminologie et la psychoéducation ont été les principales disciplines à produire du discours sur les gangs de rue. Ces disciplines ont été particulièrement marquées par la multiplication des études dites « evidence-based » ou « basées sur des données probantes », études qui visent à produire des connaissances pragmatiques venant appuyer des programmes d'intervention qui ont fait leurs preuves. Les recherches qui s'inscrivent dans cette optique des meilleures pratiques prétendent généralement être plus rigoureuses en empruntant un lexique issu des sciences naturelles. Elles ont ainsi tendance à analyser la délinquance juvénile comme s'il s'agissait d'une pathologie et à faire abstraction du contexte socio-historique, des inégalités sociales et raciales, tout en présentant les études critiques comme une tentative de détruire les savoirs criminologiques. Répondant trop souvent aux impératifs néolibéraux, ces disciplines ont généralement fait la promotion de mesures répressives plutôt que d'insister sur l'importance de l'investissement dans les programmes sociaux. c'est plutôt dans des solutions durables qui visent la transformation sociale et qui s'attaquent aux causes structurelles de la délinquance juvénile, telles que la pauvreté et le racisme, qu'il faut s'engager. En somme, les stéréotypes associés aux gangs de rue, par lesquels sont décrits de nombreuses jeunes personnes racisées, contribuent à construire un sentiment d'insécurité au sein de la population qui en vient à réclamer une solution policière. C'est encore davantage le cas lorsque ces stéréotypes sont véhiculés par des acteurs socialement accrédités, tels que les experts. Pourtant, la surconcentration de ressources policières ainsi que le surdéploiement policier dans les territoires en périphérie ont pour effet de criminaliser davantage la jeunesse racisée et de miner la légitimité policière auprès de ces populations, en plus d'exacerber les tensions et discriminations raciales dans les quartiers où vit cette jeunesse. De surcroît, la définition large et stéréotypée du « membre de gang de rue » rend quiconque se retrouvant dans ces quartiers potentiellement suspect d'appartenir à un gang. La catégorie de « gang » devient en soi un outil de profilage, de surveillance et de contrôle, ce qui contribue à expliquer la hausse des pratiques d'interpellation dans les quartiers Montréal-Nord, une hausse de 126 % et Saint-Michel, 91 % quelques années à peine après le début de la lutte contre les gangs de rue en 2005. L'échec des mesures répressives. Au Québec, nous nous sommes lancés dans l'imitation de modèles mis en place aux États-Unis, pays pourtant reconnu pour être entré en guerre contre sa jeunesse depuis les années Reagan. Ces modèles misent principalement sur une plus grande surveillance dans certains quartiers ciblés. Sur des dispositifs de contrôle implantés dans les écoles, les organisations communautaires et d'autres lieux de socialisation. Sur des interpellations répétitives, etc. Cela s'est traduit par une augmentation de la judiciarisation des jeunes noirs pour des crimes non reliés aux armes à feu, tels que la possession simple de drogue ou d'autres comportements qu'on retrouve pourtant dans des proportions semblables chez les jeunes blancs selon les sondages auto-révélés. De plus, nous assistons actuellement à la militarisation des interventions policières dans les quartiers du nord-est de Montréal, entre autres avec l'augmentation de l'arsenal et l'usage d'unités tactiques comme l'escouade permanente ELTA, créé en décembre 2020 pour lutter contre le trafic des armes à feu. Ce genre d'escouade spéciale, qui s'inspire de la police états-unienne, est inquiétant parce qu'une plus grande opacité caractérise ces pratiques. Qui plus est, il y a fort à craindre que ce type de déploiement policier ait pour effet de creuser les inégalités raciales en matière d'interpellation du SPVM, alors que les personnes noires sont déjà, en moyenne, 4 à 5 fois plus souvent interpellés par la police que les personnes blanches. Les travaux du professeur Ted Rutland suggèrent d'ailleurs que 75 % des personnes interpellées par l'escouade quiétude du SPVM, créée en 2019 pour lutter contre la circulation d'armes illégales, sont noires, alors que moins de 30 % des infractions reprochées concernent les armes à feu. Or, non seulement la mise sur pied d'escouades policières qui se veulent agressives échoue-t-elle à prévenir la criminalité par arme à feu, mais certaines études démontrent qu'elle résulte parfois en une multiplication de crimes majeurs, ce qui justifie à son tour une plus forte présence policière. Il faut comprendre que l'effectivité policière est étroitement liée à la légitimité dont jouit la police dans une communauté. La violence physique et structurelle infligée par les escouades militarisées dans les quartiers marginalisés aura donc au final pour effet d'insécuriser la population encore davantage et de miner la légitimité policière. Finalement, ce cercle vicieux, pourtant encouragé par les partisans des « meilleures pratiques », enferme les communautés en question dans des solutions répressives qui ont pour effet de reproduire les inégalités socio-économiques qu'elles vivent. viser la transformation sociale. C'est donc dans des solutions durables qui visent la transformation sociale et qui s'attaquent aux causes structurelles de la délinquance juvénile, telles que la pauvreté et le racisme, qu'il faut s'engager. Ces solutions sont déjà connues et réclamées depuis fort longtemps par les acteurs et actrices des quartiers visés, bien au fait de ces enjeux et consistent à investir massivement dans les quartiers pauvres et racisés de Montréal, notamment dans les services sociaux. Par exemple, les parents devraient pouvoir être accompagnés dans l'éducation de leurs enfants et être aidés financièrement pour le faire. Des espaces de socialisation destinés aux jeunes, qui font trop souvent défaut dans les quartiers du Nord-Est, devraient être mis en place et des activités sportives et culturelles devraient être proposées à ces jeunes. Il faut aussi investir massivement dans les organismes communautaires qui soutiennent les jeunes et qui arrivent à créer des liens de confiance durables et significatifs directement dans leur milieu de vie. Sortir les écoles des logiques carcérales et policières devrait aussi être une priorité. Les jeunes noirs sont effectivement plus à risque de voir leurs écoles policées. Étant plus exposés à la présence policière, ils en viennent aussi à recevoir des sanctions plus sévères et plus longues que les jeunes blancs, plus spécifiquement pour des gestes qui mériteraient une approche pédagogique plutôt que répressive, comme manquer un cours ou intimider quelqu'un. En d'autres mots, nos écoles devraient troquer les policiers contre des intervenants sociaux qui favorisent les apprentissages des jeunes et qui suscitent leur participation à la collectivité, plutôt que leur exclusion scolaire et sociale. Enfin, il faudrait aussi améliorer la mobilité dans et vers les quartiers du nord-est de Montréal. Cela contribuerait à les désenclaver et à faire cesser leur stigmatisation dans l'espace public, pour peu qu'on en présente aussi des représentations plus positives et conformes à la réalité. À terme, les possibilités sociales deviendront plus attrayantes que la criminalité aux yeux des jeunes et nous serons en mesure de mieux répondre à leurs besoins de protection, de valorisation et d'appartenance sans qu'ils aient à s'engager dans des activités criminelles. En ce sens, il faut s'engager dès maintenant dans un dialogue avec les membres des communautés visées et refuser les discours qui nous placent collectivement devant l'urgence d'agir avec des solutions de courte vue. C'était « Jeunes racisés, de la stigmatisation à la criminalisation ». Discours médiatique et politique dominant se conjuguent au savoir expert et à des pratiques policières pour stigmatiser une jeunesse racisée que l'on associe sans nuance aux gangs de rue. Une logique qui nourrit un cycle d'exclusion, de criminalisation et de répression plutôt que d'ouvrir des portes à ces jeunes. Un texte de Carl Beaulieu, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022, de la revue Relations.
La vie d'adulte. Un texte de Marie-Hélène Racine-Lacroix, paru le 28 janvier 2022 dans le magazine Urbania. Quand j'étais petite, j'avais une image très claire de ce que ma vie de grande personne allait être. J'allais devenir enseignante, être mariée à un homme et avoir 3 enfants, un chien et un chat. J'allais vivre dans une maison de banlieue avec une cour arrière au gazon bien vert, décorée d'une piscine et d'une balançoire pour les petits. J'allais avoir un compte conjoint, un budget bien suivi et une Toyota Sienna beige pour aller au Costco. Récemment, j'ai eu 28 ans. Pour moi, mon anniversaire est toujours un moment d'émotion et de réflexion. D'abord, mon côté insécure adore ce rappel annuel que non, mes amis, ne me haïssent pas tous, toutes, secrètement. Ensuite, je vois cette date comme un checkpoint, une autre année de passé. Je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi, mais cette année, l'âge me semble important. J'ai l'impression que si je m'étais dirigée vers la vie qu'imaginait la jeune Marie-Hélène, 28 ans serait l'âge où j'y serais à peu près arrivée. À 28 ans, on est censé être un vrai adulte, non? Pourtant, dans la vraie vie, j'ai depuis réalisé que je ne marierai jamais un homme, faute d'attirance envers eux. Je me suis dirigée vers les arts, je suis pigiste et je vis dans un petit appartement de Montréal sans cour arrière. Je suis incapable de calculer un budget et blâme le capitalisme pour tous mes problèmes de toute façon. À part Amos d'Aragon, mon chat adoré, je suis très loin de cette image que j'avais de la vie d'adulte. Je ne pourrais pas en être plus heureuse. J'étais une enfant anxieuse, bien que j'étais déjà fascinée par l'écriture, le dessin et l'humour. Je me censurais moi-même dans mes fantasmes de carrière d'artiste. Je savais que les bédéistes, les auteurs et autrices et les humoristes existaient, mais je me disais que ce n'était pas un but réaliste à avoir. J'étais obsédée à l'idée d'être parfaite pour correspondre aux attentes envers moi, bien qu'elles étaient complètement imaginées. Je me disais que si je suivais un chemin conforme à mes modèles, mes parents et mes proches n'allaient jamais avoir à s'inquiéter pour moi et je n'allais déranger personne. J'allais être normale. Je me suis toujours sentie différente, sans pouvoir l'articuler ou en comprendre les raisons. J'ai vite développé un complexe envers mes idées bizarres et appris à m'adapter à un groupe pour qu'il ne me trouve pas étrange ou malaisante, bien que souvent sans succès. Quand mes amies parlaient des garçons sur qui elles avaient des kicks, je ne comprenais jamais leur intérêt. J'ai appris à choisir automatiquement un garçon qui remplirait ce rôle, encore une fois pour contrer cette peur d'être différente. Quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'allais être grande, je répondais que j'allais être enseignante comme mes parents. C'est une réponse que les gens trouvaient satisfaisante, même adorable. Pourtant, j'inventais déjà plein d'histoires et j'aimais faire rire. Je rêvais déjà d'avoir le temps pour faire de la bande dessinée dans mes temps libres de grande personne. Même en grandissant, j'ai toujours justifié mes choix avec ce désir de perfection. Au secondaire, j'ai choisi d'aller au programme d'éducation internationale au lieu d'en arts plastiques parce que ça me semblait être la bonne chose à faire. J'étais cette personne insupportable qui capotait quand elle avait moins qu'un A. Mon côté créatif ressortait occasionnellement, comme la fois où je m'étais dit que c'était une bonne idée de mettre un tutu mauve à l'école. Mais les regards moqueurs de mes pères étaient assez pour me renvoyer au plus profond de mon désir d'anonymat. Au cégep, je me disais que les arts et lettres allaient me servir en éducation. Même quand le naturel est revenu au galop, comme un cheval rebelle à sa préadolescente unique dans un film équestre et que je suis allée en bande dessinée à l'université, j'essayais de justifier mon choix à mes parents qui me supportaient déjà pleinement. Quand je me suis inscrite à l'école de l'humour, ma chère mère a dû me dire d'arrêter de me justifier. Il y a quelques semaines, ma petite sœur me disait que j'étais courageuse de m'être lancée dans une carrière créative. Je lui ai répondu que je n'avais pas de mérite, que c'était ça ou rien. Effectivement, pour l'avoir essayé, je trouve les 9-to-5 de ce monde beaucoup plus courageux que moi. Malgré mes insécurités qui sont toujours présentes sous forme d'un énorme sentiment d'imposteur, je gère beaucoup mieux mon anxiété que du haut de mes 8 ans. Je me sens bien dans ma peau, à ma place et choyée. Je trouve drôle de voir passer des articles, surtout en anglais, décrivant ma génération comme des esprits libres, jonglant avec différents emplois et préférant la vie nomade de locataire. J'ai beau donner le crédit à ma personnalité, la société a joué un grand rôle dans la vie où j'ai abouti. Les maisons sont hors de prix et la sécurité d'emploi semble être un mythe de l'époque de nos grands-parents. Dans le fond, je ne sais même pas si j'aurais pu atteindre la vie que je m'imaginais il y a 20 ans. Même si je suis le contraire de ce qu'elle s'imaginait, je pense que la petite Marie-Hélène me trouverait très cool. C'est tout ce qui m'importe. La vie d'adulte, un texte de Marie-Hélène Racine Lacroix, paru le 28 janvier 2022 dans le magazine Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Claire Dorion à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.